que les années étudiantes sont vraiment les meilleures?
J'ai beaucoup d'importance à mon physique. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de superficiel?
La première fois, c'est vraiment si important.
Comment tu gères, toi, la pression sociale?
C'est vraiment si grave.
Je suis une fille et j'ai pas envie d'avoir d'enfants.
J'ai toujours pas mon bac.
Est-ce que c'est normal de toujours pas savoir ce que le. Est-ce que jamais été en couple? Est-ce que c'est grave?
Je veux pas avoir d'enfants.
Est-ce que c'est obligatoire d'avoir
la pression?
C'est si grave que ça parfois. C'est vraiment si simple que c'est normal. Et bah viens, on s'assoit et on papote.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote, le podcast préféré de votre podcasteur préféré et bientôt le vôtre. Première écoute ou tout simplement curieux, retrouvez On Papote sur les plateformes avec une quinzaine d'épisodes à son actif. Il y aura forcément un qui vous plaira. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur Instagram et TikTok @onpapote.podcast pour voir les coulisses de l'émission et pourquoi pas y participer. Avant de lancer l'émission, je tenais à vous présenter Marine qui co-anime ce troisième épisode. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement dû la voir sur l'une de nos vidéos. Alors Marine, de quoi allons-nous parler ce soir?
Ce soir, nous sommes avec Darling et Noémie, avec qui nous allons discuter du bonheur et plus précisément de cette recherche constante du bonheur. Relations sociales, amoureuses ou même personnelles, voyons comment le bonheur prend sa place dans vos vies. Nous allons donc commencer par le tour de table pour que vous puissiez vous présenter et répondre à la question suivante. Pensez-vous être heureuse à l'heure d'aujourd'hui ? Noémie, je te laisse répondre.
Alors moi, ouais, je me considère heureuse.
Alors moi, dans mon cas, je me considère pas vraiment heureuse. Non.
Bah oui, moi, je me considère heureuse, même si ça dépend des moments, mais la majeure partie du temps, oui.
Eh ben, pareil que Marine, je pense, c'est plutôt bien. On va commencer par la première partie, qui est à la recherche du bonheur. La première question est, qu'est-ce que le bonheur, selon vous, et comment vous pouvez le définir ?
Moi, je définirais le bonheur comme un sentiment de plénitude. Juste se sentir bien, pas besoin de plus. Après, il y a toujours des possibilités d'amélioration, mais je fais ce que j'aime, mes études me plaisent, j'ai des amis au top, ma famille, ça va. Je dirais que tout est optimal de mon côté.
Alors, c'est assez complexe comme question. Moi, je dirais que le bonheur, ce serait d'être bien physiquement et mentalement. D'être bien dans ta tête, dans ton corps, d'être bien entouré dans ta vie sociale, etc.
Selon moi, un peu pareil que Darling et Noémie, le bonheur, c'est être bien dans sa vie, être bien avec tout le monde, un sentiment d'être épanoui.
Ouais. Moi, je dirais que c'est un sentiment d'apaisement, quelque chose que, un sentiment où on se sent en paix, en fait, que ce soit avec soi-même ou que ce soit avec le monde entier.
Faut-il obligatoirement rechercher le bonheur ou au contraire faut-il le laisser venir à nous ?
Je pense que c'est un peu des deux, dans le sens où je fais tout pour être heureuse et ça me semble assez logique. Enfin, toutes les actions vont dans le sens de je fais quelque chose qui me plaît et faire des choses qui me plaisent, ça amène forcément à du bonheur. Donc c'est un peu des deux. Je laisse faire les choses mais je travaille quand même aussi un peu.
Ouais, moi aussi je dirais un peu des deux mais... Je dirais pas qu'il faudrait trop chercher le bonheur à l'extrême. Je serais plus quand même de l'école de laisser couler, voir les bonnes choses venir à toi, que t'amènes une bonne énergie dans ta vie. Parce que vraiment, trop chercher, peut-être, c'est trop contre-productif et je pense pas que ça amènerait... Ça amènerait plutôt à l'inverse, quoi, du coup, je pense.
Après, qu'est-ce que t'appelles rechercher ?
Bah, du coup, rechercher le bonheur, c'est peut-être aussi selon ce que t'imagines, toi, qu'est-ce que c'est le bonheur. Donc, ouais. Selon nos conceptions du bonheur. Mais par exemple, si quelqu'un qui veut, je sais pas, avoir la réussite professionnelle, qui va se donner les moyens, ça peut être une motivation, mais il ne faut pas trop chercher à aller dans l'extrême, je pense.
Ouais, ce serait genre provoquer un peu ce que tu veux dire par rechercher.
Ouais, c'est ça, plus. Ouais. Voilà.
Et toi, Noémie, ce serait pareil ?
Ouais, mais je voulais ajouter que pour moi, ça se provoque un peu justement le bonheur. Parce que je sais pas, si je reste chez moi à rien faire, à attendre un peu passivement que ça arrive, moi, ça ne va pas arriver. Donc, il ne faut pas chercher le bonheur à tout prix, mais juste laisser couler, pour moi, ce n'est pas suffisant. Le bonheur, ça se provoque un petit peu, justement.
Ouais, je suis à peu près d'accord. Le bonheur, il est là selon ce que tu fais. Si tu es tout seul chez toi, oui, je suis d'accord avec toi que bah, il ne sera pas là parce que c'est... Pour moi, le bonheur, ça vient avec tout ce qu'il y a autour de toi, enfin, ce que tu vis, quoi. Je ne sais pas si tu es d'accord, Anaëlle.
Mitigée. Je suis assez perplexe parce que je pense qu'en fait on peut trouver du bonheur même en ne faisant rien. La définition du bonheur, comme je l'ai dit depuis le début, c'est surtout principalement du coup de l'apaisement. Et l'exemple que tu as donné, Noémie, sur le fait que si on ne sort pas de chez soi, on ne peut pas forcément trouver le bonheur,
ben, ça fera écho à ce qu'on va poser par la suite comme question, où en fait il y a un lien entre le bonheur et les relations sociales. Mais je pense que moi, des fois, je suis assez heureuse d'être toute seule dans mon coin et d'en fait d'être chez moi dans un, on va dire, une safe place, une zone où en fait moi je me sens en confiance. Et c'est pour ça que le fait de le provoquer, oui. Après, de considérer que si on ne sort pas, mais je pense que c'est de façon grossière que tu as voulu expliquer, que bah, ça ne le provoque pas. La question suivante est, est-ce que la réussite des autres peut être aussi une source de bonheur ?
Pour moi, totalement. Vraiment, si je vois mes amis réussir, ma sœur, ma maman, enfin ma famille plus généralement, je serais super contente pour eux et forcément que ça va me procurer de la joie et du bonheur. Voir réussir les gens, c'est une source de bonheur pour moi, oui.
Bah moi, pareil, c'est vraiment une grande, grande source de bonheur, que ce soit mes amis, mes parents, mes frères et sœurs. Enfin, je prends part même à leur réussite même. Enfin, c'est important pour les encourager et je voudrais qu'ils fassent la même chose pour moi aussi. Après, la réussite des autres, ça peut être tes proches, mais ça peut être aussi la réussite de personnalité qui peut t'inspirer aussi. Et bah, ça peut juste te motiver. Par exemple, s'il y a une personne qui a une passion telle et que tu as envie de réussir dans ce domaine, ça peut t'inspirer, te motiver à travailler plus pour ça, par exemple.
Oui, je vois.
Mais du coup, est-ce que vous pensez que ça peut être une... Enfin, ce bonheur que vous ressentez pour la réussite des autres, ça peut surpasser le bonheur que vous avez pour vous-même ?
Moi, je pense pas, quand même. C'est important de se satisfaire soi et pas vivre par rapport aux autres, enfin, à travers les autres. Parce que je le verrais comme ça... Si je me contentais que du bonheur des autres, pour moi, ce serait un peu... Enfin, ça manquerait de quelque chose, mais c'est sûr que c'est une part de mon bonheur. Si toute seule, j'avais réussi à tout ce que je souhaite dans ma vie, mais qu'à côté, tout mon entourage galère, bah, c'est sûr que je ne serais pas heureuse. Okay. Donc, c'est... pour moi, c'est complémentaire.
Donc, pour toi, il faut vraiment qu'il y ait le bonheur personnel et le bonheur des autres, en fait, des gens qui t'entourent.
Totalement. Ouais.
Et pour toi, Noémie, Darling.
Oui, du coup, ouais, je suis plus sur cette différence de voilà, mon bonheur personnel et le bonheur des autres. Le bonheur des autres, ça va faire partie de mon bonheur, mais ça va pas être, ça va pas faire partie de mon bonheur en totalité, parce que bah, y a le mien, j'ai mes conceptions du bonheur, et oui, ça va être une partie, mais pas du tout la totalité, quoi.
Quand vous dites une partie, on peut avoir un chiffre à peu près ? Est-ce que c'est 50-50 ou plus un 70-30 pour l'un ou pour l'autre ?
J'ai pas l'impression que dans mon entourage, il y ait des gens qui souffrent vraiment tous les jours ou qui aillent vraiment très mal. Donc, c'est un peu difficile à chiffrer. Mais si j'essaye d'imaginer tout mon entourage triste au quotidien et moi épanouie, c'est sûr que je le serais pas. Donc oui, je pense que c'est un 50-50.
Ouais, moi, je partirais plus sur le 50-50 en vrai. Parce que vraiment, c'est ça. Je dirais 50-50 parce que c'est des personnes que je tiens dans mon cœur. Donc ça va vraiment sur du 50-50.
Moi j'aurais dit 50-50 aussi parce que mon bonheur à moi c'est important parce que c'est selon ce que j'accomplis et tout ça, ça me rend heureuse. Mais en même temps quand je vois les autres réussir bah, ce qu'ils se sont projetés faire et tout ça, bah, ça je me sens épanouie aussi à travers leur vie.
Et ben, je suis assez surprise parce que moi du coup ce serait plus un 70-30. En vrai, bah, je trouve que mon bonheur personnel est assez important par rapport au... Alors, à prendre avec de grosses pincettes vraiment ce que je veux dire, par rapport au bonheur des autres. Enfin, après, genre, ça, c'est que le côté personnel, mais j'ai beaucoup ressenti par rapport aux autres, et, enfin, vécu par rapport aux autres, et je pense que le fait de vivre pour les autres et pour une validation en fait, des autres fait qu'en fait, on perd la notion de bonheur pour soi-même et on... n'accepte en fait le bonheur des autres que ben, dans leur réussite. Donc je pense que c'est pour ça que moi je vois plus sur un 70-30. Je pense que mon bonheur est assez important par rapport au bonheur que les autres vont avoir. Mais au contraire, c'est plutôt une bonne chose que le 30 soit là pour en fait nourrir un peu mon bonheur à moi et nourrir en fait ceux des autres aussi. Ça, comme on prend l'exemple avec vous, vous c'est un 50-50. C'est sûr que par exemple, pour un moment où vous allez passer avec vos amis, il y aura du bonheur dans les deux côtés. Mais ça se trouve, sur l'instant où il y aura un autre moment, une autre situation, il y aura quelqu'un qui prendra plus de plaisir, bon, avec beaucoup de guillemets, sur une situation. Et je pense que c'est votre bonheur qui peut prendre la majeure partie par rapport au bonheur des autres. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre un petit peu sur ce que je veux dire.
Oui, oui.
Si, si, ouais.
Pour faire une transition, l'argent fait-il le bonheur selon vous ?
Moi déjà, j'ai une relation particulière avec l'argent. Genre vraiment, ça me stresse de pas avoir d'argent. Donc forcément que je vais répondre oui, pour moi ça fait le bonheur, mais pas que. Enfin, ça y contribue, on va dire.
C'est-à-dire ?
Pour moi, si t'es pauvre, tu peux pas être heureux pleinement. Tu peux avoir des moments où tu te sens bien, mais ça reste forcément dans un coin de ta tête, te dire « Ah, mais est-ce qu'à la fin du mois, je vais pouvoir manger ?» est-ce que... enfin, pour moi, c'est beaucoup trop de questionnements parasites qui, que le manque d'argent entraîne. Et à contrario, le fait d'avoir de l'argent, ça amène des possibilités. Enfin, je sais pas, tu peux imaginer beaucoup plus de sorties, tu peux... En fait, c'est, pour moi, l'argent, ça amène une sorte de liberté. Et,
une ouverture.
Ouais, une... Enfin, t'es apaisé par rapport à tout ce qui peut se passer. Ça enlève un poids de choses à penser qui, c'est tel. Enfin, pour moi, c'est indispensable au bonheur d'avoir de l'argent.
Qu'est-ce que t'appelles être pauvre et qu'est-ce que t'appelles être riche ?
Pour moi, être pauvre, c'est juste. Enfin, pauvre. J'ai dit pauvre, mais c'est juste manquer d'argent, en fait. C'est pas avoir assez d'argent, par exemple, à la fin du mois. Galérer pour acheter à manger. Se poser, en fait, c'est juste avoir des questionnements qui tournent autour de l'argent. Est-ce que je vais pouvoir payer ça ? Est-ce que je peux faire cette sortie ? Est-ce que c'est pas trop compliqué de payer mon loyer ? Est-ce que je peux me permettre d'acheter ce vêtement ? Tout ce qui est en lien avec des achats. Mais ça peut être un truc totalement futile comme un café ou, plus important, je sais pas, mon assurance voiture, par exemple.
Ouais, donc dès l'instant où tu as du questionnement, tu places ça comme un côté un peu de pauvreté, un côté de...
Oui. En fait, je dis pauvre trop facilement. Faudrait une transition, mais ce serait juste quelqu'un qui n'est pas à l'aise financièrement.
Ouais.
C'est ça, le manque d'argent. Mais c'est okay. Pas pauvre, vraiment pauvre.
Moi, du coup, je penserais plus que l'argent, ça contribue au bonheur en partie. Pas en totalité, parce que bon, on va se mentir, on a besoin quand même un peu d'argent déjà pour vivre, pour les besoins alimentaires, les loisirs... Et c'est vraiment indispensable. Du coup, je te rejoins sur ça. Parce que oui, tu peux avoir ces questionnements sur l'argent qui vont te stresser. Moi, personnellement, je suis née dans une famille où l'argent, ça manquait un peu. Et même si je ne gérais pas le budget, c'était quand même quelque chose qui m'impactait parce que je le ressentais à travers l'émotion de mes parents. Et tu grandis un peu avec cette idée de... faut que je fasse de l'argent, guillemets, plus tard, je veux être dans un confort financier meilleur que ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Donc pour moi, c'est quand même pas un élément en totalité de ton bonheur, c'est pas ça qui va définir ton bonheur en totalité, mais c'est quand même un élément, une facette importante quand même, ça joue quand même sur ton bien-être.
Si je peux ajouter un truc, c'est parce que pour moi l'argent c'est important parce que je me fais envie de beaucoup beaucoup de choses en fait. Donc forcément... ça me frustre de ne pas pouvoir combler toutes mes envies. Donc, pour moi, l'argent, c'est important.
Après, oui, l'argent, c'est important, mais on peut faire de nombreuses sorties. Par exemple, à nos âges, on a plein de sorties qu'on peut faire gratuitement. Donc, l'argent, oui, c'est important, mais on peut quand même être heureux par plein de trucs futiles que l'on peut faire dans sa vie.
Moi, je suis mitigée, je suis plus du côté de Noémie. J'avoue que quand j'étais étudiante, du coup, en licence, j'avais un job étudiant avec 500 euros par mois. Et j'avoue que j'étais avec beaucoup de guillemets à l'aise, dans le sens où je pouvais sortir, faire des activités en fonction de mon quotidien à moi. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments où en fait, tu te questionnais sur « ouais, là, le virement, il n'est pas encore arrivé » ou « ouais, faut que tu payes ça et ça ». Alors que maintenant, avec l'alternance... ma boîte me paye super bien, voire même un peu plus que ce que je suis censée toucher, du coup. Et en vrai, je me rends compte que je débloque en fait une nouvelle facette de la vie. Et en fait, comme tu l'as dit, Noémie, ça te débloque une autre facette de la vie que tu n'as pas vue. J'ai pas été, du coup, comme toi, darling, ou dans une famille qui manquait de moyens. Au contraire, moi, la vision que j'avais, c'était vraiment on n'avait pas forcément tout ce qu'on voulait, mais on n'était pas des enfants gâtés, mais on n'est pas non plus... des enfants avec tous les derniers trucs à la mode. Mais en fait, on se rend compte que la vie, elle coûte cher et que les moments où on est heureux de pouvoir s'acheter ce qu'on veut en une seule fois et pas de le faire en 3-4 fois avec frais ou même sans, on se rend compte qu'en fait, la vie, elle est beaucoup plus simple. J'ai reçu mon salaire, par exemple, le 26. J'ai dépensé pour les cadeaux de Noël et pour d'autres choses. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai vraiment rien dépensé. Parce que mon salaire me permet de dépenser sans compter. enfin pas à ce point quand même, mais d'avoir une autre vision de la vie et de pouvoir se dire bah ouais là en fait je peux partir en vacances genre maintenant sur un coup de tête et genre bon ça va peut-être même être mal mais en soi ça dépend de l'endroit où j'irai et je peux bien me mettre genre donc je comprends en fait cette notion de bonheur que tu veux expliquer et cette notion de ouais l'argent permet d'avoir accès à quelque chose qu'on n'a pas forcément eu avant.
Bah en vrai je suis assez d'accord avec toi avec le fait que tu découvres une nouvelle facette de la vie. Moi, cette nouvelle facette de la vie, j'ai découvert avec la bourse vraiment l'année dernière en L1. Et j'avais beaucoup plus que ce que mes parents pouvaient dépenser dans le mois. Et vraiment, je suis plus bien en termes d'argent que chez mes parents. C'est ça le truc. Et du coup, ça te débloque un truc de... Ok, vraiment, quand la première fois que j'avais eu ma bourse, je me souviens, mais ça se trouve, je vais dans la galère, je vais dans la merde et tout, parce que t'arrives dans les études sup, t'entends parler de précarité étudiante, etc. Et en vrai, si tu gères bien ton budget et en vue de ce que j'ai de la bourse, ça va, ça passe, tu vois. Donc, j'ai vraiment découvert ce truc de, ok, j'ai cette nouvelle facette où c'est un peu plus simple, la vie, grâce à ça, en fait.
Ouais, en vrai, je suis un peu comme toi. J'ai toujours vécu avec une famille où j'avais pas beaucoup d'argent. Donc, on m'a toujours appris à économiser et tout ça. Donc, depuis que j'ai la bourse, j'économise beaucoup. Donc, je me fais plaisir, mais en même temps, j'économise. Donc, du coup, je me prive pas et ça me rend heureuse, quoi.
Après, moi, j'aimerais juste... personnellement, de mon point de vue, j'ai jamais touché la bourse. Donc, pour moi, je différencie vraiment les deux choses, que ce soit une aide sociale ou un salaire, parce que pour moi, ça c'est qu'un détail, mais je trouve qu'il y a deux facettes différentes. Mais forcément, ça fait partie des étapes en fait, de la vie, et je suis contente qu'en fait, vous, ça soit la même chose, qu'il y ait vraiment une différence, et que l'argent qu'on rapporte donne une source de bonheur, en fait. Bon, pas dans les extrémités, évidemment, mais... il y a quand même une forme d'apaisement et de soulagement en fait, qu'on a quand on tombe sur ça. On va passer à la seconde partie, qui est cultiver et soigner son bonheur. Donc, la question serait, est-ce que le bonheur physique et le bonheur mental sont-ils des choses qu'il faut séparer ou au contraire sont-elles indissociables ?
Qu'est-ce qu'on entend par bonheur physique ?
En bonheur physique, je pense que je comprendrais, comme on l'a dit, donc l'argent, donc tout ce qui est appartement. Est-ce que tu te sens bien dans l'endroit où tu es ? Est-ce que la ville dans laquelle tu fais tes études te plaît ? Est-ce que... Voilà, c'est tout ça, tu vois, le bonheur physique.
Pour moi, ce serait vraiment indissociable, vraiment. Genre, le bonheur physique et le bonheur mental. Avant, j'avais tendance à penser que ta santé, par exemple, physique, c'était plus important, ton environnement physique. Pas du tout, en fait. Le mental, ça a un impact sur le physique, enfin, les deux. En fait, vraiment, le logement, ça... reflète ton état mental en fait. Par exemple, si tu vas avoir une chambre débordée, ça va peut-être dire que en ce moment tu te sens mal, tu te sens pas hyper bien. Donc ça a vraiment un impact et les deux se complètent. Vraiment, faut prendre soin des deux parce que si tu te sens pas bien, ça va vraiment découler sur le physique, sur au niveau de tes relations sociales, ton travail. Donc c'est vraiment important de prendre soin des deux vraiment.
Je pense que l'endroit physique c'est important et que ça définit pas forcément ton état mental. Mais, en fait, je vais prendre mon exemple. Là, actuellement, j'ai un super appartement, vraiment excellent. Et il y a eu des moments où je me sentais bof, alors que j'avais un super cadre de vie, on va dire. Et l'année dernière, j'avais un appartement qui était insalubre, donc il y avait de la moisissure chez moi. C'était très humide et j'avais pas de chauffage. Donc vraiment pas très fun. Et pourtant, ça m'empêchait pas de me sentir heureuse. Pour moi, les deux sont dissociables. Mais forcément que quand j'étais dans mon appartement moisi, ça a impacté mon mental. C'est pas, ça se complète, mais c'est dissociable pour moi quand même.
Okay. Ouais, pour moi, c'est un peu des deux. Il faut séparer les choses parce que, par exemple, une personne riche, elle peut habiter dans un grand logement, dans une villa ou quoi, mais elle peut ne pas être heureuse. Enfin, souvent, c'est ça, parce qu'elle peut ne pas savoir à qui faire confiance, enfin... toutes ces choses-là. Et en même temps, c'est indissociable parce que c'est comme vous disiez, si on habite dans un lieu qu'on n'aime pas, on ne pourra pas être heureux. Enfin, par exemple, moi, il y a quelques temps, je ne dormais pas bien. Enfin, j'étais pas bien dans mon appartement et tout ça. Et dans la journée, ça se faisait ressentir parce que je vivais pas bien, quoi.
Je pense que les deux sont indissociables, je pense. Mais qu'avec le temps, il faut savoir dissocier les deux. Dans le sens où vous avez beaucoup parlé du logement, etc. Moi, je ferais place aux études. Je sais que quand j'étais en licence, du coup, nouvel endroit, L1, c'était super. J'avais un bonheur qui était un bonheur mental qui était plutôt moyen parce que j'étais toute seule, je venais d'arriver dans une ville que je connaissais pas, et un bonheur physique qui au contraire lui était plutôt au top vu que j'étais dans une ville que je connaissais pas. Donc il y a vraiment un double tranchant, mais en fait plus les années sont passées et même actuellement, des fois le bonheur physique, donc moi je prends encore l'exemple des études où la licence s'est plutôt bien passée en règle générale. Mais pour autant, au fur et à mesure que j'avançais, j'ai pas forcément apprécié le lieu où j'étudiais. Et même là, à l'heure actuelle, c'est pas le lieu qui me déplaît, c'est plutôt les relations sociales que je peux avoir. Mais du coup, le bonheur mental, je pense, permet de redresser le bonheur physique et inversement. Donc c'est pour ça que je pense qu'elles sont pas, qu'elles sont au contraire indissociables, parce que l'une permet de redresser l'autre. On peut très bien se sentir mal dans un lieu paradisiaque. Et on peut très bien se sentir bien dans un endroit insalubre et un endroit où, au contraire, on ne devrait pas avoir source de bonheur. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de garder les deux ensemble, parce que ça permet en fait de surélever l'autre qui est un peu en perte de puissance, on va dire.
Les relations sociales sont-elles obligatoires pour être heureux ? Donc, les relations amoureuses, amicales, familiales ou professionnelles, enfin, on englobe un peu tout dans cette question.
De mon côté, c'est sûr que j'en ai besoin. Après, ça ne fait pas pleinement mon bonheur. Par exemple, j'adore lire des bandes dessinées. Ça se fait tout seul. Je peux le partager, mais c'est quand même assez compliqué concrètement. Mais je sais que si j'avais pas d'amis, que ma famille, ça allait pas trop, c'est sûr que je serais malheureuse. Vraiment, j'ai besoin d'avoir du contact, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de... Même juste de voir des gens, en vrai, aller se promener dans la rue. Si vraiment j'étais tout le temps enfermée chez moi, un peu ermite, je sais que je pèterais un boulon, c'est sûr.
Oui, c'est sûr que les relations sociales, c'est hyper important pour moi dans ma vie. Enfin, moi, j'accorde vraiment une... Tu as parlé de relations amoureuses, professionnelles, amicales, mais moi, je mettrais plus une importance à mes relations amicales, vraiment. Parce que vraiment, juste être avec tes amis, ça te vide la tête, tu passes du temps avec eux. Ça te fait sentir mieux dans ta peau, dans ton esprit. Ouais, c'est un plus dans ta vie. Après, amoureuse, professionnelle. Bon, professionnelle, c'est quand même important. Après, ça reste quand même des relations différentes parce que amicale, t'es plus proche de tes amis que de tes collègues. Et amoureuse, bon, je vois un peu une pression à ça. Mais bon, après, il faut trouver la bonne personne, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est un plus dans ta vie et que c'est vraiment indispensable parce que si t'es isolée... Tu as une vision du monde qui est beaucoup plus grise et tu n'as pas la même vision des choses et de la vie sans des personnes avec qui tu te sens en confiance, quoi.
Je suis à peu près d'accord. En vrai, les relations sociales, c'est l'être humain, il est né pour en avoir. Moi, par exemple, le week-end, je passe du temps toute seule, mais je suis très contente de retrouver mes amis pendant la semaine parce que si je passais tout le temps toute seule, je pense pas que je serais complètement heureuse. Enfin, il manquerait quelque chose à ma vie. Parce que même si dans ma famille, ça va, tout le monde est heureux, je sais pas, vu qu'ils habitent loin de chez moi, il manquerait quelque chose.
Ouais, après, je pense que avant de répondre à cette question, il faut surtout savoir, est-ce que vous êtes plutôt introvertie ou extravertie ?
Vu que j'ai le besoin de beaucoup parler, je dirais assez extravertie, mais assez extravertie dans un petit cercle,
ouais.
En vrai, c'est intéressant de parler de ces notions-là d'extraversion et introversion. Moi, je dirais plus introversion quand même. J'aime bien avoir mes petits moments à moi-même, tu vois. Je peux me satisfaire à moi-même. Mais j'ai quand même besoin d'être avec mes amis, de ne pas totalement être isolée. C'est quand même un certain équilibre, quoi. Faut trouver une balance, quoi. Tu ne peux pas être totalement seule et tu ne peux pas totalement être avec tout le monde parce que sinon, après, tu n'as plus d'énergie. Faut retrouver... Enfin, moi, j'ai besoin de retrouver mon énergie quand je suis toute seule, quoi.
Moi, je dirais que je suis introvertie quand je connais pas les gens avec qui je suis, quand j'arrive dans un milieu que je connais pas. Mais quand je me sens en confiance, je deviens extravertie. Enfin, je développe une autre partie de mon caractère.
Ouais, c'était une question assez importante parce que, en fait, comment vous vous définissez entre introverti et extraverti, en fait, ça justifie vos réponses. Donc, pour toi, Noémie, par exemple, tu vois, t'es assez extraverti, donc c'est compréhensible que t'aies besoin d'aller voir les autres. Alors que toi, Darling, tu vois, il y a un entre-deux derrière où, ben, peut-être que t'es introverti, mais t'as quand même besoin du coup du contact avec les autres. Ben, comme tu l'as dit, Marine, on est né pour être en relation avec les autres. Mais du coup, ben, moi, je me représente un peu plus comme toi, Darling, dans le sens où j'ai toujours été quelqu'un d'assez introverti. Et donc, je suis assez bien toute seule. Mais au contraire, je me revois un peu dans ce que tu dis, toi, Noémie, dans le fait que je suis assez extravertie aussi dans un petit cercle. Donc c'est vrai que je suis plus en confiance dans un petit cercle, mais au contraire, avec le temps, j'ai réussi à changer la tendance et être assez extravertie quand je rencontre de nouvelles personnes. Et je pense que ça dépend aussi de l'environnement dans lequel on est et de, enfin, du mood, on va dire, des gens que tu rencontres aussi. Mais j'ai une plus grande facilité maintenant à ne pas avoir peur et à prendre les devants. Donc les relations sociales, pour être heureux, je dirais oui. Parce que j'ai eu une phase assez difficile quand j'ai fait ma transition entre du coup la fin de la licence et le master, où bah, tous mes amis sont partis du coup chacun de leur côté faire leurs études, et en fait on se retrouve un peu tout seul, où on doit faire un point et on se dit bah ouais, bah là du coup je vais rentrer dans une nouvelle école, je vais rentrer dans une nouvelle formation, je ne connais personne, toutes les personnes que je connaissais sont parties, et maintenant en fait il faut réussir à se reconnecter avec les autres, mais les autres sont pas forcément réceptifs à nous. Et je pense qu'il faut savoir, en fait, avoir le juste milieu, donc comme tu le disais depuis le début, Darling, sur les relations sociales et soi-même. Et je pense qu'au contraire, bah, ça rebondit sur la question que je vous posais, il faut savoir trouver le bonheur seul. Et donc ma question est, peut-on trouver le bonheur seul ?
Alors, je vais reprendre l'exemple de la bande dessinée. Mais vraiment, quand je lis une BD, une super bande dessinée, je suis... super content. Ça me comble autant que être en soirée avec mes potes, par exemple. Mm. C'est vraiment... j'adore ça. Donc oui, pour moi, on peut trouver le bonheur seul. Même sous la douche, juste des petits moments d'introspection. Pour moi, c'est aussi des petits moments de bonheur. C'est pas bonheur...
intense.
Oui, c'est ça. Mais ça fait partie du bonheur. Et pour moi, c'est super important de se satisfaire tout seul et de pas avoir besoin de tout le temps être avec du monde.
Ouais, je serais plus de ce côté-là. Vraiment, le bonheur personnel, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et souvent, dans notre société, on image un peu le bonheur en collectif. Mais vraiment, tu peux te suffire à toi-même, juste avec tes passions, ce qui te nourrit. Vraiment, les passions, ça fait vraiment le tout. Genre, si tu te mets à fond dans un truc, je sais pas, juste même d'écouter de la musique ou je sais pas, faire une activité qui t'est propre. Ça peut vraiment te combler à fond.
C'est vrai que les petites choses du quotidien, ça peut directement refaire ta journée. Par exemple, aller faire du sport que tu aimes, bah, d'un coup, tu peux passer d'être pas bien à être bien. Voilà, c'est des petits moments de bonheur qu'on est tout seul à pouvoir ressentir.
Ouais, ok, parfait.
Pour finir, où se trouve le bonheur dans votre vie au quotidien ?
Je vais passer pour quelqu'un de bizarre à trop aimer les bandes dessinées, mais lire une bande dessinée, pour moi... c'est du bonheur. Quand je vais à la fac, j'ai mon petit trajet toute seule avec ma musique. Pour moi, ça, c'est un petit moment de bonheur. La bonne musique, s'il ne fait pas trop froid, parce que bon, là, c'est un peu moins agréable, mais ça, c'est des petits moments de bonheur. Rentrer le week-end, voir ma famille, dormir avec mon chat, parce que je ne le vois pas la semaine. Tout ça, c'est vraiment c'est des petits moments de bonheur. Et si j'avais pas ça, je pense qu'il me manquerait un petit truc.
Ouais, moi, le bonheur au quotidien, ça se nourrirait par des choses assez simples. Bah, juste, bah, comme je disais, écouter de la musique, vraiment, j'écoute de la musique à fond. Vraiment, juste avoir mon casque, d'oublier un peu l'endroit où t'es, d'être ailleurs un peu. Juste des choses simples, vraiment, être avec tes amis, être tranquille chez toi, regarder ta petite série. Vraiment, je nourrirais vraiment mon bonheur au quotidien par des choses ouais, simples, ouais. Je le définirais comme ça.
Vous avez fait pas mal de références. Est-ce qu'on peut avoir des noms de bandes dessinées et aussi des artistes de musique ?
La dernière que j'ai lue, qui m'a vraiment mais trop plu, que j'ai conseillée à plusieurs personnes, c'est Les Pizzili de Jérémy Moreau. Déjà, les dessins sont super colorés. C'est trop chouette à regarder. Et l'histoire est très très cool, avec une petite morale sur l'écologie, les liens avec la famille, tout ça. Donc, Oui, j'ai adoré.
Alors moi, niveau artiste, vraiment, je suis trop focus sur la bonne pop américaine, vraiment. Donc j'en ai vraiment plein. Alors mes top artistes, je dirais, bon, je sais pas, Ariana Grande, Taylor Swift, Beyoncé, Rihanna. Vraiment, je pourrais continuer comme ça. Mais ouais, vraiment de la pop, vraiment du côté américain, ouais.
Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de On Papote. Nous espérons que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à noter l'émission si vous avez apprécié le programme.
Encore merci à nos invités du mois, Darling et Noémie, qui se sont livrés sur la quête du bonheur. Retrouvez-nous le mois prochain pour parler d'un épisode spécial en lien avec vos grands-parents.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et à l'année prochaine.